quand un corsaire sans territoire a pris d'assaut mon sceau, m'appelle ma balançoire, pris ma balançoire en pleine poire. On a traversé toutes les guerres, massacré les rois d'Angleterre et fait prisonnier mon petit frère. Mais à Colin Maillard, d'un coup de sabre laser, j'ai désintégré le gardien du square. Un jour de pluie très romantique, sur le toit du kiosque à musique, je suis tombé très très amoureux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais assis dans le ciel, suspendu à deux ficelles sur l'arc-en-ciel.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique la complicité de Flo Descailloux, qui nous prépare des cocktails musicaux diverses et variés. On sera à peu près la tournure des choses et ces pages musicales en cours d'émission. Et nous avons le bonheur de recevoir Tania de Montaigne pour un roman Sensibilité, qui est paru aux éditions Grasset. Un roman que j'ai lu avec grand plaisir et qui vous parle, que voulez-vous, de l'époque du « en même temps ». En même temps, on dit une chose et puis on en dit une autre. Et puis on fait du rétro-pédalage. On ne sait plus trop ce qu'on dit, on ne sait plus trop où on en est. Bref, est-ce qu'on ne fait pas de la littérature avec des bonnes intentions, Tania de Montaigne? Et c'est vrai qu'en plus, l'enfer est pavé de mauvaises intentions. Les mots changent-ils le monde? Cachez-moi ce mot que je ne saurais entendre ni voir. Bref, votre livre, Tania de Montaigne, parle de la l'insensibilisation de la langue, du langage. Est-ce que c'était justement, on en parlait un peu hors antenne, Tania de Montaigne, le bon moment? J'ai l'impression que votre livre, il tombe à point nommé, Sensibilité au pluriel, du féminin pluriel.
Après, les livres, c'est toujours c'est le bon moment pour la personne qui les écrit, déjà. Ouais. Après, est-ce que c'est le bon moment pour les gens qui vont le lire? Ça, c'est la vie qui le dira. Hein. Parfois, c'est... Je crois que si on commence à vouloir être un peu Nostradamus de la sortie littéraire, en général, on se plante, quoi. Donc non, c'était le bon moment pour moi parce que voilà, il y avait plein de choses que j'avais pu croiser de part et d'autre et je me disais que j'aimerais bien en faire quelque chose. Et puis voilà, là, j'ai rassemblé tout ça et puis surtout, il fallait trouver comment j'allais le dire. Donc ça m'a pris du temps, quoi.
Alors on sent qu'il y a une longue réflexion derrière. Moi je l'ai pris comme une fable contemporaine. Vous avez votre expérience du théâtre qui est là, qu'on sent vraiment. Alors j'ai pensé moi à trois livres en vous lisant. C'est bien. Alors bien sûr Salman Rushdie avec l'agression dont il a été victime. J'ai pensé à Nathalie Sarraute, Les Fruits d'Or.
Oh.
Oui, parce que le planétarium, les fruits d'or, finalement, pas beaucoup d'écrivains s'interrogent sur l'après-vie d'un livre. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté fruit d'or, avec l'oralité que vous avez, et puis un troisième livre de Boris Vian, avec l'affaire Vernon de Sullivan, et quand il y a eu un crime, enfin il a eu tout un procès,
oui,
vous savez,
exact, ouais.
J'irai cracher sur vos tombes.
Ouais, exact, on a accusé d'avoir incité au meurtre.
Alors je voudrais connaître un peu quel était, si vous avez eu un modèle, parce qu'il y a une temporalité dans votre livre, il y a un choix d'un rythme très précis. Est-ce que vous tout de suite vous aviez l'idée de ça ou quelque chose de court, de comme un conte des temps modernes, quoi? Est-ce que vous avez cette idée là?
Ben en fait c'était vraiment un travail déjà de dire d'accord, moi ce dont j'ai envie de parler c'est en partant de ce que j'ai pu expérimenter et qui était pour moi inattendu, c'est-à-dire à chaque fois c'était un étonnement de voir des gens qui me proposaient de modifier mon travail pour le faire correspondre à quelque chose qu'ils imaginaient de la sensibilité. Alors là en l'occurrence c'était Les Noirs, hein, donc
voilà.
Ça part d'un livre que j'ai écrit qui est sorti en 2015 qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, qui est une biographie. d'une jeune fille qui vivait dans l'Alabama des années 50 et qui a fait la même chose que Rosa Parks, mais 9 mois avant. Mmh. Et c'est grâce à cette jeune fille que, du point de vue légal, il n'y a plus de ségrégation dans les transports, mais personne ne la connaît. Donc, l'idée, c'était d'essayer de raconter cette trajectoire. Et il se trouve que ce livre noir, il appartient à une collection qui s'appelle Nos héroïnes, où le principe, c'est de demander à une auteure au sens large. Donc il y a celle qui a ouvert la collection, par exemple, c'est Michel Perrault, une historienne, et moi j'étais la troisième de la collection et la première romancière. Et l'idée, donc, c'est que l'auteur du livre déjà doit trouver son héroïne, et puis que cette biographie, au lieu d'être une biographie classique à distance où on raconte la vie de quelqu'un, bah là on est obligé d'être dans le livre d'une façon ou d'une autre. Donc à chacune de trouver la façon dont elle va y être. Alors Michel Perrault, c'est génial parce que elle raconte ce que c'est qu'être historienne, en fait. Donc on peut rien dire tant qu'on n'a pas d'éléments pour le dire. Et comme elle choisit, elle, de raconter la vie d'une ouvrière de la soie au 19e siècle, qui va fédérer tout le mouvement syndical, bah alors là, c'est un challenge important, parce que évidemment les classes populaires sont des classes qui se racontent très peu, et les femmes à l'intérieur des classes populaires, alors là, c'est encore autre chose. Donc c'est génial, parce qu'elle raconte à la fois comment elle va déterrer son personnage, et puis en même temps, elle raconte ce que c'est que ce métier d'aller chercher comme ça des traces un peu partout. Et donc moi, je me disais, bon, bah, je vais pas vous raconter comment je fais des recherches pour chercher un livre, par exemple, ça c'est pas du tout spectaculaire. Donc il a fallu que je trouve une place. Et la place qui m'est apparue intéressante, c'était d'être un guide pour la personne qui lirait, pour que cette personne comprenne à quel point le geste de cette jeune fille, qui consiste à ne pas se lever de sa place, la place qu'on lui a désignée, hein, donc c'est une jeune fille noire, elle est assise chez les Noirs, et elle ne se lève pas de cette place, en quoi c'est héroïque de faire ça. Donc pour ça, en fait, très gentiment, je vous retire des droits au fur et à mesure, pour que le moment où Claudette Colvin va faire son geste, bah maintenant vous soyez assis à côté d'elle, en tout cas que vous soyez à égalité, et que vous soyez plus au-dessus, ou en train de dire, oh là là, ça n'a pas l'air facile, les Noirs, là, c'est pas évident. Mais voilà, maintenant c'est votre vie aussi. Donc le principe, c'est que je vous dis, bah, faites-moi confiance, prenez une profonde inspiration, soufflez, désormais vous êtes noir. Un noir de l'Alabama dans les années 50. Et il se trouve que j'ai la chance que ce livre ait été adapté en bande dessinée par une jeune fille géniale, Émilie Plateau. Alors, vous avez de la chance si vous la connaissez pas, parce que, en plus, là, elle va sortir fin janvier une BD sur Viviane Mayer.
Ah oui, en effet. Oui.
Qui a l'air trop belle. Donc, voilà, ça vous fera un doublé gagnant. Et il se trouve que, donc, Émilie a adapté la bande dessinée. C'est vraiment son livre. Hein. Moi, j'ai vraiment rien foutu à part constater qu'elle était géniale et dire ouais, t'es géniale. La BD est sortie en 2019. Elle a été sélectionnée notamment dans un festival au Canada anglophone. Et là, on nous a dit, bah, c'est super parce que ça va permettre d'avoir accès aux éditeurs anglo-saxons. On va faire un petit exemplaire numérique en anglais pour montrer à ces éditeurs ce que ça pourrait devenir. Mais alors, en revanche, on pourra pas appeler la bande dessinée noire parce que Émilie est blanche et que ça peut faire de la peine aux noirs. Et donc là, on s'est retrouvés, alors vraiment, Émilie et moi, complètement sidérés par ce truc. Surtout que la dame en face de nous, qui, je le précise, était blanche, nous a dit vraiment avec une grande certitude qu'elle savait ce qui fait de la peine aux noirs et ce qui n'en fait pas, puisqu'elle avait consulté un noir qui, visiblement, connaît tous les noirs. Et surtout, elle nous proposait avec la même gentillesse, hein, parce que vous parliez des bonnes et des mauvaises intentions. Bah là, c'était dans une très bonne intention. Elle nous proposait d'appeler le livre, elle avait bien réfléchi, et elle se disait, bus, c'est vraiment un super titre, parce que ça fait pas de la peine aux noirs, bus, et en même temps, comme ça se passe dans un bus, bah, c'est super. Bah, franchement, on peut pas trouver mieux. Donc, ça a donné lieu à une discussion assez enflammée, je dois dire, et j'ai noté ça, et en me disant, bon, bah voilà, c'est peut-être les Canadiens anglophones, je sais pas, ils sont partis, plus cette dame là qui est anglaise, bon, bah je sais pas.
Ils ont pris le bus.
Ouais, ils sont partis, ils étaient en bus, et ils sont pas descendus. Mais il se trouve que pas du tout, parce que, en fait, depuis 2019, je n'ai cessé de voir des gens, et alors plus du tout aux Canadiens anglophones, mais vraiment, dernièrement même ici, hein, qui m'expliquait en fait ce qui fait ou ne fait pas de la peine aux noirs. Et surtout, je voyais bien qu'en fait, tous ces gens-là étaient dans une dynamique qui consistait à dire, si on retire des mots qui pourraient faire de la peine, alors ce que cette peine recouvre sera aussi effacé, en fait. Il y aura un... Et ils ont l'impression vraiment de faire quelque chose. Et ils ont tellement l'impression de faire ça, c'est tellement absurde, que donc ils pouvaient m'expliquer à moi, c'est-à-dire que moi je devenais plus du tout noire, hein. Et que eux, ils avaient une vraie science des noirs qui était étayée par le fait qu'ils avaient parlé à un noir spécialiste qui avait donné son aval, quoi. Donc il y avait un truc labellisé comme ça. Et donc je me suis dit bon, il faut trouver comment faire quelque chose. Au départ, je me disais bah est-ce que ce serait un essai. Et puis en fait, je me suis dit comme c'est souvent la fiction en ce moment qui est attaquée, c'est-à-dire on demande à la fiction de faire la preuve qu'elle est vraie. Donc je me suis dit bah non, c'est intéressant de repartir à cet endroit-là. Et puis la fable, parce que ça permet, en fait, la fable, il y a des codes, c'est un genre, en fait. Donc on sait très bien que dans une fable, tous les personnages, c'est un peu nous. On sait que on n'a pas besoin d'exprimer ni un lieu géographique ni une temporalité. C'est de tout temps et en tout lieu. Et ça m'intéresse parce que je voulais pas, au départ, j'étais plutôt dans un truc qui aurait pu donner l'impression que je parlais d'un endroit et que bon bah tous les autres endroits sont très épargnés. Alors qu'en fait, je parle de nous, en fait, et que je crois qu'il y a des choses qui sont très contemporaines et puis d'autres qui sont profondément humaines. La censure, c'est très très humain.
Et l'autocensure.
L'autocensure aussi. Et que donc ce trajet à faire pour aussi faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la légalité ou de l'illégalité. Hein, il peut y avoir des œuvres qui sont racistes, antisémites, homophobes, etc. Bien sûr, et il faut qu'on puisse regarder en quoi elles le sont, mais on ne peut pas interdire toutes les œuvres qui auraient des mots qui pourraient faire dire... voilà, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à écrire sur un personnage qui serait homophobe, antisémite ou que sais-je encore. Il faut qu'on puisse décrire le réel comme il a pu être, si on a envie. C'est-à-dire que moi, ce fameux livre noir, j'essaye de vous raconter ce que c'est que la ségrégation dans les années 50 aux États-Unis. Donc il est bien évident que les gens n'appelaient pas les Noirs et les autres, hein, d'ailleurs, parce que là... le livre s'attache à une jeune fille qui est noire, mais enfin la ségrégation, ça concernait beaucoup d'autres gens. Non, ils appelaient pas salut, toi, le noir sympa et intelligent, trop joli. Bon, il y avait des mots, et donc il faut que ces mots puissent continuer à être dits pour qu'on sache d'où on vient et où on aimerait pas repartir, en fait, parce que sinon, alors on va inventer un monde où quelque chose a existé, mais quoi, on ne saura pas.
Une sorte de dévitalisation de la langue, de mots déracinés. De leur sens premier, comme si les mots, d'ailleurs, ça marque aussi alors un manque de distance avec le langage. C'est complètement, parce qu'on prend le mot au pied de la lettre, c'est qu'à le dire, et on imagine que parce qu'on va supprimer un mot, on va supprimer le problème. Ça me fait un petit peu penser à la féminisation des noms de femmes. Ça, en croyant qu'on va féminiser certains métiers, on va faire évoluer le féminisme. Ça ne changera pas, à mes yeux, moi, le problème des femmes. Mais bon, ça donne l'illusion de faire évoluer les choses. Donc c'est très curieux cet attachement.
Après, sur les noms, il peut y avoir des choses... Par exemple, c'est intéressant de voir comment est-ce que... Donc pendant très longtemps, le théâtre était interdit aux femmes, donc les hommes jouaient tous les rôles. Et puis soudain, arrivent des femmes, ah mon Dieu. Ouais. Et donc ce mot d'actrice arrive. Et donc tout le monde trouve ça trop moche.
Ah bon,
en disant, mais non, ça va pas, c'est une catastrophe et tout. Donc après, il y a aussi une habituation. Donc il peut y avoir... En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement... parce que la langue, c'est un mouvement. Donc, l'idée n'est pas de figer les choses et de dire, si c'était comme ça, ça doit rester comme ça. C'est de dire, quand je fais quelque chose autour du mot, est-ce que je fais quelque chose autour du réel?
Bah c'est
aussi.
Ça, là.
Parce que si, en fait, et là, je vois bien qu'il y a plein de gens qui mettent une énergie folle. Donc là, par exemple, j'ai découvert... Donc moi, j'ai eu plusieurs noms dans ma vie. Donc quand je suis née, j'étais une personne de couleur. Voilà, donc on disait bien sûr pas la couleur. On disait par ce mot que, en fait, blanc n'est pas une couleur, puisque personne de couleur, ça n'est pas des gens blancs. Donc j'ai été pendant très longtemps personne de couleur. Après, j'ai été black.
Alors oui, black,
là,
il y a
black.
Eu la...
Alors là, tout le monde était maxi black et tout. Ouais. Après, 11 septembre 2001, donc là, du jour au lendemain, je suis devenue musulmane. Voilà, qui est un super mot, parce que ça permettait de dire les noirs et les arabes. Hop, ça faisait un gros sac comme ça. Et donc, peu importe que vous soyez musulman ou pas, n'était pas le sujet. Mais soudain, c'était ça. Et puis après, là, on a tenté de proposer, depuis quelques temps, racisé. voilà, mais qui est toujours un mot qui raconte la même chose, c'est-à-dire ça raconte que un, vous voulez toujours pas dire la couleur des gens, et deux, vous mettez toujours pas les blancs dans cette notion, alors que évidemment que s'il y a pas de blanc, en fait, il y a pas de race. En fait, les races, elles se regardent, elles ont été inventées pour se regarder et se comparer l'une l'autre. Donc, si vous excluez une couleur du principe de racisé, alors bon, bah, vous êtes encore en train de dire qu'il y a des gens pas blancs, et puis il y a les blancs. Sauf que vous dites ni l'un ni l'autre. Et puis maintenant, là, j'ai découvert qu'il y avait un autre mot, mais qui est très 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 récent. Je ne sais pas du tout comment il va prendre, qui serait les mélanisés.
Ah.
Voilà. Bon. Donc, rebelote, en fait, on est en train de circuler autour de l'idée qu'il faut dire quelque chose des gens pas blancs, mais sans préciser comment ils sont.
C'est pour ça que je vous parlais de Nathalie Sarraute. Ça a été la première à parler de tout ça, des mots qui circulent, qu'on entend au café, des mots des gens, du snobisme, du fantasme qu'on a sur le langage. Parce que le métier d'écrivain fait fantasmer. C'est peut-être aussi pour ça, vous avez ces sensitive readers, là, donc c'est des lecteurs en sensibilité, donc des démineurs littéraires, qui sont chargés d'anesthésier, c'est-à-dire avant publication, vous pouvez, votre livre, il doit être vraiment clean, hein, non clivant, faut gêner personne. Alors ces relecteurs, est-ce qu'il y en a beaucoup en France maintenant, ou est-ce que ça vient apparemment des pays anglo-saxons? Est-ce que la tendance du métier de, j'allais dire, des mineurs professionnels, des mineurs littéraires, est-ce qu'il est de plus en plus là? Est-ce que vous m'en avez un petit peu parlé là, est-ce que vous sentez l'arrivée de ce nouveau métier?
Bah, en fait, ce que je vois, c'est que, alors dans la littérature générale, on va dire, on est moins soumis à ça.
En jeunesse, peut-être?
Mais en jeunesse, ah bah là, c'est un festival. Ah, parce ouais. Que, en fait, comme il y a aussi l'idée que des œuvres, bah déjà, en fait, de fait, c'est-à-dire la littérature jeunesse, comme par définition, on fait pas lire la même chose à un enfant qui a 4 ans qu'à un enfant qui en a 12. Donc, de fait, on réfléchit à se dire, tiens, cette façon de raconter, est-ce que c'est pertinent pour cet âge? Le truc, c'est qu'une fois que vous en êtes là, bah, vous allez pouvoir aussi élargir à est-ce que ça convient, ça convient pas? Et puis, ça convient, ça convient pas? Dès l'instant où ces œuvres, elles vont peut-être voyager, donc être traduites ailleurs, etc., vous allez anticiper. En fait, la chose qui m'intéressait aussi, c'est que tout ça, c'est des suppositions. C'est-à-dire, vous supposez, parce que si vous êtes sur le terrain du sensible, comme par définition, chaque être est singulier, sa sensibilité aussi, donc vous ne pouvez pas normaliser une sensibilité. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est anticiper, et donc élargir de plus en plus le cercle de ce qui seront des choses qu'il faut sanctifier pour être sûr que ça ne gêne pas. Et donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base scientifique, vous ne pouvez pas supposer de ce qui fait problème ou pas, mais comme vous inventez une profession qui va avec ça, et que vous inventez surtout un prisme qui dirait qu'une personne sous prétexte de son handicap, sa couleur de peau, sa sexualité, son sexe, sa maladie aussi, vous supposez que cette personne-là a une science. Et que cette science, vous pouvez vous y adosser. Et donc, si cette personne-là dit ça du point de vue des Noirs, ou du point de vue des schizophrènes, ça marche pas, ou du point de vue des lesbiennes, c'est très mal vu, alors, il y a ce truc-là de dire, ah, vous parlez depuis une expertise. Et donc, très bien. C'est comme si vous étiez, en fait, un historien médiéviste que je serais allé voir pour lui dire, je fais un livre sur le Moyen-Âge, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Bah là, ce serait pareil, en fait.
C'est nier la fiction, c'est nier l'imaginaire.
Puis surtout, c'est nier la singularité de la personne à qui vous prêtez cette compétence. Parce que vous êtes en train de croire que tous les Noirs ont la même sensibilité, qu'ils pensent tous la même chose, et que donc, on peut avoir un porte-parole qui va dire non, alors ça, du point de vue des Noirs, ça passe pas, parce que c'est bien connu, on a un WhatsApp et on se dit les trucs tous les Noirs de la planète.
Puis c'est nier l'intelligence du lecteur, l'intelligence du lecteur, son sens critique. Quand vous lisez Rabelais, on va être grossophobe ou je sais pas, puisqu'on parle de Pantagruel, etc., c'est nier vraiment le sens de la distance. Alors votre roman, Tania de Montaigne, parle donc d'une femme qui travaille dans une maison d'édition, Feel Good. Il y a eu donc un écrivain qui a été assassiné, puisqu'on a pris vraiment au pied de la lettre, c'est qu'à de le dire. Et elle est chargée, finalement, elle travaille dans cette maison d'édition. Faut dire aussi que le feel good, c'est une mode éditoriale. Hein.
Ouais, là, on veut du bien-être.
Il y a une tyrannie du bien-être, un peu.
Feel good. C'est-à-dire que plus vous mettez à l'extérieur une situation anxiogène, Et plus, évidemment, tout le monde a envie... tout le monde aimerait qu'il y ait un espace qui soit dépourvu de violence, dépourvu d'incertitude, dépourvu de doute. Voilà, ce serait un petit espace comme ça où on maîtriserait tout, on connaîtrait tout et qui serait épargné de l'ensemble de notre sauvagerie, en fait.
Vous écrivez, si le but ultime était le bonheur, le ciel était de parvenir à désactiver les mots et les idées problématiques pour en offrir une version équivalente et inoffensive. Ne rien proposer qui puisse donner prise à l'offense, surtout que personne ne soit agressé. Alors que la littérature, la discussion, c'est l'affrontement, c'est le débat.
Bah, en tout cas, oui, c'est vraiment... un choc avec une altérité, quoi. Donc, mais c'est un désir très infantile, hein. C'est vraiment un truc comme ça où on serait dans notre petite couveuse et ça serait sympa. Et la chose, enfin, ça s'exprime par ce biais-là si on est du côté de l'art. Mais la vérité, c'est que ça s'exprime partout. C'est-à-dire que si vous mettez une pandémie, deux guerres, un réchauffement climatique, oui, alors c'est vrai qu'il y a un taux d'angoisse qui passe à un niveau de compétition. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à vouloir des réponses simples à des situations complexes et qu'on voit bien que partout dans le monde, on est en train d'élire gentiment des gens dont le programme est de proposer du simple. Et puis de l'élimination. Donc en l'occurrence là on est sur les mots, mais on voit bien que ça s'étend aux gens. On voit bien que la proposition c'est de faire des murs, c'est de faire des choses comme ça qui vont permettre d'effacer l'autre. Et comme ça on va tous être trop joyeux. On se ressemblera tous et on sera tous alors selon les continents et les endroits, bon, on sera tous dans notre rêve d'être blonds aux yeux bleus et de courir dans des champs de coquelicots.
L'uniformisation de la phrase, du texte, la standardisation du produit littéraire. Alors, il y a une phrase mise en exergue, parce que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître, d'Audrey Lorde. Pourquoi vous avez mis, justement, ça m'a intrigué, cette phrase mise en exergue, qui va loin, qui nous fait penser, c'est-à-dire que...
Audrey Lorde, elle est...
C'est une femme qui est engagée, qui est féministe.
C'est une poétesse, une écrivaine. Noire, lesbienne aussi, qui essaye justement de réfléchir à ce que c'est que la lutte. Son travail à elle, il s'inscrit dans les années 60-70. Et j'adore cette phrase parce qu'elle raconte bien l'endroit où il faudrait, où commence la lutte. Et en fait, la lutte, elle commence dans le déplacement. C'est-à-dire, si vous prenez comme postulat ce qui est donné, si vous voulez lutter par exemple contre le racisme, mais en utilisant le principe des races, c'est-à-dire en disant oui, voilà, nous les Noirs on est géniaux, vous êtes quand même en train de donner des gages au langage du racisme, donc ça va être très compliqué de s'en déprendre. C'est exactement ça qu'elle dit, c'est-à-dire elle dit si vous voulez lutter contre quelque chose qui vous paraît injuste, il faut déjà démonter ce qui constitue cette chose que vous trouvez injuste, regarder le langage qu'elle propose, le système qu'elle met en œuvre en chacun de nous, et vous défaire de ça. Si vous continuez à être dans les langes de ça, alors vous ne luttez pas, en fait. Parce que, vous détruirez pas la maison du maître avec les outils du maître.
Voilà. C'est pas possible. Et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que vous n'aimez pas, vous, en tant qu'auteur, c'est être assigné à résidence. Voilà. Vous avez un mot, vous avez une étiquette, mais vous êtes plus que ce mot, cette étiquette. Ce refus de l'assignation à résidence, je trouve qu'elle est... cette réflexion qui plane dans votre livre, Tania de Montaigne.
Moi, je pense que l'art et en règle générale l'être humain, ce qui en fait la richesse, l'intérêt, et ce qui fait que ça nous fait penser, ce qui fait qu'on peut se reconnaître dans une œuvre qui a été écrite il y a 4 siècles en disant « mais c'est moi, là, attends ». C'est justement le mouvement. La force d'un livre, le livre c'est incroyable parce que c'est quand même un espace où on va travailler à deux, entre ce que l'auteur met en œuvre et ce que le lecteur, la lectrice va venir croiser, on fabrique une œuvre. C'est pour ça qu'un livre, c'est pas la même chose, chacun a son livre en quelque sorte, et que on voit bien d'ailleurs quand il y a une adaptation au cinéma, souvent on est déçu parce qu'on voyait pas ça comme ça. Donc c'est cette question de l'imaginaire qui m'intéresse. Et si on commence à
casser
l'imaginaire, casser ça, eh ben, en fait, on est en train de nous priver de ce qui nous constitue, parce que la vérité de l'humanité, c'est essentiellement de l'imaginaire. En vrai, il y a 1% de nous qui est de la nature, tout le reste c'est de la culture, donc tout le reste c'est de l'imaginaire, c'est du mythe. On voit bien que nous, bah voilà, quand on nous raconte, quand les parents ils disent « Oh mais oui, mais tu es tout le portrait de ta tante, tu es née, c'était une nuit étoilée, il n'y avait pas de lune. » Bon, bah voilà, en fait, donc on est un livre, voilà, et on est fait de tous les récits, de tous ces mythes là qui nous ont été racontés, et c'est pour ça qu'on continue à lire, c'est pour ça qu'on continue à aller au théâtre, c'est pour ça qu'on continue, parce que en fait c'est les histoires qui nous intéressent, et le problème c'est que parfois les histoires ça nous amène à élire des gens, voilà, mais c'est toujours cette histoire du récit. Donc il faut qu'on continue à imaginer, parce que l'essentiel de ce qui fait aussi la beauté d'une société est autour de la question de l'imaginaire. Par exemple, l'égalité, c'est une invention pure. On voit bien que naturellement, bon, moi je suis pas du tout dans une dynamique rousseauiste, je ne crois pas que quand on est dans la nature, on est là, oh, trop sympa et tout. Pas du tout. Je crois que naturellement, on est dans un truc qui est en train d'hiérarchiser, de
qui
dire...
Qui est déjà inégal au départ.
Oui, hein, voilà, c'est moi le plus fort, regarde, machin. Et que donc... se dire ah bah tiens on pourrait être alors liberté, égalité, fraternité, tiens Zou, c'est que de l'imaginaire, et c'est pour ça que c'est très beau, mais c'est pour ça aussi que c'est du boulot. Bah, ça peut pas se faire sans nous.
L'imaginaire, l'idéal et l'utopie, il y a un chemin pour le parcourir et pour l'acquérir. On va faire une pause musicale, Tania de Montaigne.
Chouette.
Voilà, qu'est-ce qu'on nous réserve?
Je sais pas, c'est surprise là.
Ouais, on nous fait une surprise. Alors la surprise musicale. Ah
non, pardon.
Ah.
Vous avez reconnu Bobby
ben là,
McFerrin?
Ouais, ouais, c'est ça.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
don't worry. Be happy.
Il y a eu une question d'un auditeur. Est-ce que Don't Worry, excusez-moi pour mon accent, Be Happy, n'est pas une injonction? Je laisse la parole à Tania de Montaigne sur Radio Libertaire.
Tania de Montaigne, justement, un auditeur vous pose une question,
ben oui,
c'est le bonheur
alors.
À tout prix, c'est ça? Vous dénoncez ça d'ailleurs dans
votre Oui, après je ne sais pas si Bobby McFerrin, on est dans une injonction, on est peut-être dans une proposition en fait.
Ouais,
peut-être il dit,
aussi.
Écoute, t'en fais pas là où on va essayer d'être heureux, quoi.
Ouais. Puis il y a aussi, alors ce que dit bien votre livre, c'est cette... philosophie de la coolitude. Cool.
Ouais, cool.
Cool, tout est cool. Ouais. Tout tellement cool qu'on ne retient plus rien dans les livres. Mais c'est vrai, il y a ce culte du non-clivant, du non-bouleverse, de la non-révolution, en fait. On est à l'inverse de la génération de nos parents. On manifestait, on débattait beaucoup, je trouve. Et là, on est dans une société de l'image où finalement, tout doit être lisse.
Bah, c'est surtout que parce que ça manifeste et quand même, on peut pas dire que
mais différemment.
Il se passe ouais. rien, mais en tout cas, les réseaux sociaux ont ouais. mis en œuvre quelque chose qui fait que c'est pareil. Il y a d'un côté une extrême violence, hein, donc dès que vous êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous pouvez vraiment proposer de le tuer.
C'est ça.
Ça prend vraiment 3 secondes en général.
3 secondes, hein. Voilà. Paf.
Au bout de 3 secondes, on est là-dedans. Et puis, donc, il y a une incapacité à supporter l'altérité, je trouve. Et à supporter le fait que, bah oui, l'autre, c'est pas moi, il peut ne pas avoir le même point de vue, et pour autant, je peux ne pas le tuer. Et c'est dans ce balancement, en fait, qu'il y a quelque chose d'assez étrange. Parce que, pareil, sur la question de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, on voit bien que d'un côté, si on se place du côté des livres, on voit bien qu'il y a toute une production de livres qui vraiment dit à peu près tout ce qui passe par la tête. Et en toute décontraction, hein, donc vraiment, de ce point de vue-là, les maisons d'édition d'extrême droite sont très détendues. Et surtout, elles soutiennent énormément leurs auteurs. Donc ça, c'est ce que je vois. Et puis de l'autre côté, je vois d'autres gens qui, en revanche, sortent des livres. Si on se passe du côté des livres, mais ça marche aussi pour, évidemment, les autres arts. Et puis dès qu'il y a un problème, alors la structure ou l'institution qui devrait soutenir se défausse. Elle laisse en race campagne son artiste, qui est sommé de s'excuser de on sait pas quoi, puisqu'a priori tout le monde était bien d'accord pour sortir ce projet, mais maintenant c'est à l'artiste que revient la tâche de se défendre et de s'excuser. Et puis on en reste là, quoi. En fait, je vois bien qu'il y a, c'est pareil, il y a ces deux mouvements, et que ce qu'il faudrait, c'est peut-être se dire, quand on fait quelque chose, pour moi c'est vraiment la question de la responsabilité. Il y a quelque chose sur l'idée d'être responsable de ce qu'on fait, de comment on le fait, et de tenir ça, de soutenir ça.
Bah, bien sûr.
Et je vois bien que pour les artistes là, c'est des temps très compliqués.
Artiste, mais aussi, finalement, on n'arrête pas de s'excuser pour un oui ou pour un non. Je disais tout ça tout à l'heure en début d'émission. On voit la télé et je m'excuse et j'ai pas dit ceci, mais j'ai quand même dit cela. Et mais vous savez, je suis pas totalement... Il y a une sorte d'ambivalence de... Oui, on sait pas où se situer. Donc, ne sachant pas où se situer, on dit tout et le contraire de tout. Hein. On le voit vraiment en politique, je trouve. En littérature, on peut le dire aussi, dans les arts exactement aussi, parce que c'est une société qui évite, ce que vous dites. D'ailleurs, c'est le malaise d'une société, je dirais, qui évite le malaise. Vous le dites très justement, Tania de Montaigne. Prévenir plutôt que guérir, désormais, la seule et unique question qui la guiderait serait, est-ce que ce texte, cette phrase, ce mot, peut être source de malaise? Le malaise n'était pas bon pour les lecteurs. Il n'était pas feel good. Donc, quand on est dérangé dans son petit confort de sa vie de tous les jours, voilà. Mais il y a un autre paradoxe que vous soulignez, Tania de Montaigne, c'est que d'un côté, il y a cette société, enfin, ce postulat littéraire, éditorial plutôt, de lisser les textes, de les standardiser. Et puis de l'autre aussi, on peut voir, paradoxalement, ça c'est pas dans votre livre, mais on peut voir, est-ce que c'est en réaction ou pas, il y a des œuvres très provocatrices, très... On dirait qu'il y a deux, l'un ou l'autre, voyez. On dirait que c'est soit le feel good, soit alors, à l'inverse, peut-être c'est une réaction d'œuvre racoleuse aussi qu'il peut y avoir en réaction de ça. Donc on se trouve dans un drôle de monde. Mais ce qui est la force de votre livre, je trouve, c'est le dialogue. Alors ça, c'est est-ce que votre expérience du théâtre, Tania de Montaigne, parce qu'il y a d'excellents dialogues. Vous pourriez nous en lire d'ailleurs, mais il y a d'excellents dialogues. Et je trouve que ce rythme du dialogue, c'est pour ça que je parlais de Nathalie Sarraute tout à l'heure, on se renvoie la balle. Paf, paf, paf. Mais tu as dit ça, parce qu'ils sont sans arrêt en réunion là dans les...
Ah bah là, on est obligé, hein, parce que si vous voulez comprendre ce qui peut poser problème, où que ce soit dans le monde, parce que aussi, toute cette dynamique-là, elle vient d'où ? Elle vient du fait que vous vous retrouvez face à des structures qui veulent être globales. Hein, on veut être mondial, il y a plus du tout l'idée de supporter d'être un petit artisan qui fait son truc et voilà, non, faut que ce soit énorme tout de suite. Donc évidemment, plus vous voulez toucher tout le monde et plus ce tout le monde est abstrait et plus vous allez devoir mettre des barrages, des verrous, donc vous devez devenir presque météorologue du sensible. Donc évidemment que si vous êtes une structure, eh ben alors là maintenant vous êtes obligé d'être en réunion perpétuelle parce qu'il y aura toujours quelque chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, l'essentiel des exemples sont vrais.
Mais c'est
c'est-à-dire
ça
tout ce qui paraît on se dit oh là là vraiment non, ça c'est des vrais, souvent quand on me demande pour un truc ou l'autre, je pense c'est des choses qui sont parfaitement
vécues,
vraies,
que vous
avez
vécu,
voilà. Alors soit que j'ai vécu, soit qui ont vraiment eu lieu, donc qui m'intéressaient pour cette raison-là, parce que voilà. Et après donc ce que je voyais, ce que j'essayais de restituer, c'est que c'est parfaitement absurde, mais c'est des gens qui vraiment mettent une énergie à essayer de tenir quelque chose qui est intenable.
Qui est intenable.
Donc, oui, il faut se réunir, savoir si ce mot-là, mais attention, qui a dit qu'on pouvait le dire ou pas ? Est-ce que c'est grave si on ne dit pas ? Vous parliez tout à l'heure de cette question de la confrontation. C'est aussi l'idée de ne pas supporter que, par exemple, dire le mot juste. Hein. Est-ce qu'on dit une autrice ? Un auteur, une écrivaine, un écrivain, voilà, bon, on pourrait se dire, tiens, moi je vais te dire autrice, puis si toi t'aimes pas, tu me diras non, je préfère dire autre chose, et ça n'aurait aucune gravité, en fait, on aurait parlé, et puis on aurait dit, tiens, ça va être plutôt ça, donc, mais là, il y a l'idée que ça c'est déjà très grave, si je me trompe, a priori, c'est grave. Là, vraiment, ça entame totalement une relation possible, parce qu'on est vraiment dans une dynamique aussi, je pense, d'une peur qui est liée à du réel, c'est-à-dire des gens sont vraiment morts d'avoir dit ou ont vraiment été poignardés pour avoir...
Salman Rushdie, par exemple.
Voilà. Mais je veux dire, les traducteurs de Salman Rushdie, il y en a quand même un qui est mort, un autre qui est handicapé à vie. Enfin, donc, c'est du réel. Donc en l'occurrence, il y a une base qui est réelle, il y a une peur qui est réelle, et donc on vient coller à cette peur qui est réelle, du fantasme pur, et on est aussi dans l'idée que toute personne possiblement peut vous tuer. Donc à partir du moment où l'autre est devenu une espèce d'entité
menaçante
et sauvage, on fait comme si c'était un animal sauvage. Donc on est là, attends, si je bouge la main, c'est peut-être dangereux, peut-être pas bouger, etc. quoi. Donc c'est aussi cette question du mouvement et de l'absence de mouvement et de ce truc figé là, il est partout. Donc comment on remet du mouvement là-dedans ? Comment est-ce qu'on repart sur l'idée que oui, l'autre est un risque et que ce risque n'est pas forcément mortel ?
Non.
La vie est un risque et pour autant, elle est mortelle au fil. À un moment, mais enfin, entre le moment où on vit et celui où on meurt, voilà, il y a quand même un espace où on a des petites choses à expérimenter. Donc, c'est ça, c'est repartir dans le risque de l'autre et que ce risque-là, ça soit un risque joyeux, c'est un risque intéressant.
Et créatif.
Oui.
Et créatif parce que les mots Alors, ce qui est marrant aussi, vous parlez de la traçabilité d'une œuvre, par exemple. On pourrait, alors, il y pense, hein, parce que ça cogite dans cette maison d'édition Feel Good. On pourrait peut-être mettre en place un test ADN systématique pour tous les auteurs. Comme ça, on serait sûr de leur légitimité de façon indiscutable, proposa-t-elle. Donc, c'est vrai que on en est presque là. C'est-à-dire que c'est sur la légitimité d'écrire. C'est de l'acte d'écrire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vécu tel ou tel événement, vous ne pouvez pas l'écrire. ça va quand même loin, puisque l'imaginaire, c'est l'inverse. C'est que vous pouvez quand même prendre des bottes de 7 lieues avec votre stylo et avec vos mots.
Oui, puis alors, normalement, c'est ça qui est intéressant.
Oui.
C'est l'idée d'aller voir ailleurs si on y est, quoi. Ben c'est un peu le principe de l'art. Et le principe de l'art, c'est quelqu'un qui va voir ailleurs s'il y est et qui vous y emmène. Donc, ça fait que là, on est sur un voyage et que c'est ça qui nous permet de comprendre l'inconnu, en fait. Donc...
Vous aimez être surprise par ce que vous écrivez, Tania de Montaigne ?
Alors, surprise par ce que j'écris, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien être dans un cheminement, dans une intention, et de voir comment, au fur et à mesure, ça, c'est génial. En fait, quand on est dans la dynamique d'écrire, et je pense que ça vaut pour n'importe quel art, il y a un moment où c'est vraiment comme si on ouvrait justement une porte, et que soudain, tout vient... agrandir ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, une fois que vous êtes lancé, en fait, c'est comme si vous étiez un aimant, quoi. Chaque chose, vous êtes là, mais oui, bien sûr, là, voilà, vous voyez une affiche, oui, c'est ça, et tout ça. Donc, il y a une sorte d'exaltation, alors qui permet, je constate que quand je suis dans des phases d'écriture, vraiment, alors là, il y a tout un tas de gens complètement bizarres qui viennent me parler. Donc, je vois bien que là, c'est ouverture totale à l'inconnu. Et j'espère que c'est quelque chose de ça rejaillit après, une fois que l'œuvre est terminée, quoi, un truc qui est ouvert. Voilà.
Est-ce que vous avez réfléchi beaucoup avant, c'est-à-dire est-ce que vous faites partie des écrivains qui réfléchissent longtemps, qui s'imprègnent longtemps d'une idée, d'un projet, et après il y a l'écriture du livre qui vient et qui est rapide, ou est-ce que vous écrivez par petits bouts sur des carnets, vous... Parce qu'il y a des dialogues savoureux, où, voilà, des échanges un peu. Je veux dire, c'est le ping-pong de la parole, ça va vite. C'est.
En fait, là, c'est vraiment moi mon. Enfin, parce que une œuvre d'art, c'est un fond et une forme. Mmh. Donc, en fait, tout le sujet, c'est de trouver quelle architecture on va mettre au service du propos. Et là, moi, j'ai vraiment j'ai sué sang et eau, hein, parce que j'arrivais pas à trouver cette forme. Et en fait, j'ai été sauvée. Vous me demandiez, en fait, dans les livres qui ont inspiré. Je savais que je voulais raconter quelque chose de métallique sur comment, en fait, le capitalisme, se structure. Le capitalisme depuis sa création, enfin depuis le moment où il se fige au moment du commerce triangulaire, on va dire là, quelque chose se pose dans lequel nous vivons encore aujourd'hui, hein, dans cette structuration comme ça, et cette idée que pour que nous on ait un petit t-shirt trop sympa à 5 €, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit pas payé quelque part dans le monde. Et que ça va, ça. Donc, je voulais essayer de raconter ça, de raconter cette mécanique et comment elle est à l'œuvre aussi sur cette question-là. C'est-à-dire que si les entreprises, les institutions, les maisons d'édition se sont jetées à corps perdu dans cette histoire de lecteurs de sensibilité, c'est pour se défausser. Hein, donc, c'est l'idée de dire, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai appelé une personne que je vais pas du tout intégrer, parce que le truc aussi intéressant, c'est que la vraie question fondamentale, c'était pas celle du lecteur de sensibilité, la vraie question, c'était de dire, en fait, il y a des gens qui ne sont pas présents dans votre entreprise. Il y a des gens qui sont exclus de ces institutions. Donc, il y a de la discrimination. Et alors, ce qui est bien, c'est que à cette question-là, qui aurait nécessité qu'on se dise « Ah bah oui, alors là, effectivement, il manque des gens, donc je vais revoir mon mode de recrutement, je vais... » à cette question-là, on a répondu en prenant des gens et en les essentialisant, et en les prenant sans les prendre. Donc en fait, c'est des prestataires qui sont très très mal payés, à qui on va demander de labelliser des choses, et à partir de là, l'entreprise se sent... en capacité de se laver les mains de tout ce qui se produira après, et c'est pour ça qu'elle peut tranquillement laisser l'écrivain ou l'artiste se démerder dès qu'il y aura une personne dans le monde qui dit oui, moi ça m'a fait beaucoup de peine, cette personne, voilà, il y aura ce truc là donc moi je voulais raconter ça, donc je me suis mise à relire des gens qui avaient fait ce récit là avant, en fait, et qui avait une façon de le faire qui était très froide, très métallique, et qui m'intéressait. Donc, Don DeLillo.
Oui.
Voilà,
très
donc
bien.
Je suis repartie dans Cosmopolis et puis dans d'autres romans de Don DeLillo. Et puis Bret Easton Ellis. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment deux. Eux, ils ont attrapé quelque chose de cette mécanique, quoi. Donc, ça m'intéressait. Mais j'avançais, mais je trouvais pas. Et puis, en fait, je suis retombée aussi sur un livre qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Et là, je me suis dit, mais c'est ça. Parce qu'en fait, lui, c'est, bah, le livre est extraordinaire. Alors, pareil, si vous l'avez pas lu, ça, c'est vraiment une chance parce qu'il est trop beau, ce livre. Et il est génialement organisé parce que il arrive à nous raconter. Alors là aussi, un truc vraiment, de l'ordre de l'inhumain et de l'industriel. Mais il nous le raconte avec les codes du conte. Donc, il est en train de nous raconter la Shoah, mais à aucun moment, ce mot ne sera prononcé. On a tous les codes de la fable avec la forêt, le bûcheron, la bûcheronne, cet objet étrange dont on va comprendre que c'est un train, voilà, mais qui est vu comme une espèce de d'offrande d'un dieu, bon, on ne sait pas ce que c'est, voilà. Et je me suis dit, ah, mais ça, c'est ça en fait, parce que la fable, là, ça va nous couper de la possibilité que quelqu'un dise oui, non, mais ça, ça se passe aux États-Unis, mais nous en France, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc je me suis dit, ok, ça, c'est extraordinaire. Bon, donc en fait, j'avais ces trois sources comme ça pendant l'écriture.
Et en fait, même votre personnage principal allait évoquer, mais sommairement, enfin, ça pourrait être moi, ça pourrait être... On sent que c'est une enveloppe dans laquelle le lecteur ou la lectrice peut se glisser pour, comme dans un conte.
Oui, c'est ça. Et donc, je voulais qu'elle soit... ouais, c'est ça, qu'il y ait...
Il y a une forme.
Qu'elle ait des dynamiques. On voit ses circuits internes. Mais elle n'a pas de couleur, par exemple. On m'a fait remarquer ça. Et
oui, elle n'a pas de couleur.
C'est vrai, parce que je pense que vraiment, la censure n'a pas de couleur. Hein, donc, je ne crois pas du tout que si ce personnage... était plutôt noire que je sais pas quoi. Elle serait complètement... elle échapperait à la tyrannie, je ne crois pas.
Non, elle essaye de trouver sa place, de toute façon.
Bien sûr. Bah, de toute façon, tout ça, c'est une histoire de place. Hein. Il y a vraiment l'idée de... quand on part dans ces rouages-là et que elle essaye d'être la meilleure dans son domaine, la plus efficace, et elle essaye aussi d'être regardée. Il y a cette question-là de vouloir être un petit ange, là, et d'être célébrée pour ça. Donc, elle est nous. Voilà. Parce que nous avons ce désir-là. Si partout dans le monde, on se retrouve avec des gens d'extrême droite au pouvoir, on peut pas se contenter de dire, oh là là, il y a des cons qui ont voté pour, c'est pas possible, en fait. C'est que ça nous raconte quelque chose profondément, et qu'il y a un mouvement là-dedans, et donc on doit le regarder pour ce qu'il dit, puisque en plus, il se répète tout au long de l'histoire, il y a eu ça. Donc, au bout d'un moment, il faut considérer que il y a de nous là-dedans, quoi.
Il y a une interrogation sur la lecture, justement, la lecture de l'actualité. On va faire une pause musicale.
Ouais.
Flo Ducaillou, qu'est-ce qu'elle nous réserve ?
Je sais pas, là.
On va voir.
Elle est en train de réfléchir, là.
Oui, ça réfléchit. Ah, voilà.
This is a man who thinks with his heart is not always wise. This is a man who stumbles and falls, but this is a man who tries. This is a man you'll forgive and forgive and help to protect as long as you live. He will not always say what you would have him say. But now and then he'll say something wonderful. The thoughtless things he'll do will hurt and worry you. Then all at once he'll do something wonderful. He has a thousand and dreams that won't come true. You know that he believes in them, and that's enough for you. Defend him when he's wrong.
C'était bien sûr Nina Simone sur Radio Libertaire, Something Wonderful.
Et voilà, Tania de Montaigne, est-ce que, je sais que vous aimez bien beaucoup hein, Nina Simone, est-ce que vous écrivez en musique, le rôle de la musique dans votre vie?
Ah, alors c'est un rôle important. Alors, alors merci beaucoup Florence, parce que je ne connaissais pas du tout ce titre. Je le trouve très beau et j'adore l'arrangement aussi, c'est hyper beau avec la harpe et tout. Ça lui va bien. Alors la musique, bah oui, moi j'écris en musique. Alors selon les titres, selon les livres, bah pareil, il y a des titres où là je deviens complètement monomaniaque en fait. C'est un peu tout le temps les mêmes. Dans le parcours d'écriture, de la même façon que j'ai, je vais avoir 3 ou 4 livres qui sont mes livres de référence et que c'est ma boîte à outils en fait. Quand je me pose des questions, là j'y retourne, je regarde, je décortique et tout. En fait, il y a une musique qui vient aussi. Dans la dynamique de ce que je suis en train d'écrire, quoi.
Le rythme, c'est important. Enfin, on sent que.
Bah oui, puis là, il fallait un truc qui va vite, un truc très rythmique. Donc, ce que j'écoutais était plutôt de ce côté-là, quelque chose qui vient percuter, quoi. C'est assez percussif.
Ah oui.
Voilà. Puis au fur et à mesure, comme il y a un emballement aussi, je voulais montrer que au début, on sait vaguement pourquoi on fait les choses, puis après, on sait plus du tout, en fait. Parce que une fois que vous êtes parti à censurer, finalement, le sujet de la censure a complètement disparu. Ce pourquoi on a mis en œuvre tout ça n'est plus du tout le sujet. Très rapidement, on est dans l'emballement de, et puis la jubilation, c'est fiévreux, quoi. On est là, tac, mais on a qu'à enlever ça, et puis ça aussi. Voilà. Enlever comme ça, c'est il y a un truc exaltant.
Mais il n'y a jamais de fin, puisque il n'y a pas de fin. Alors, actuellement, les éditeurs, par exemple, je sais, avant d'éditer un auteur, vont sur un site bien connu pour connaître le chiffre de vente. Donc, il y a quand même aussi cette forme de ségrégation par la vente qui se fait hein, pour la publication des livres.
Alors, nous, on a une chance quand même, c'est qu'on a des librairies.
Oui.
On voit bien comment est-ce que les États-Unis, encore plus post-pandémie, hein, parce que là, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que comme il y a eu une aspiration totale, et puis comme il n'y a pas ce prix unique du livre, etc., il n'y avait pas cette mise en œuvre, justement, là, on se retrouve confronté au fait que c'est Amazon qui décide de ce qu'il y a comme livre. Parce qu'au bout du compte, y a tout un tas de propositions éditoriales qui ne peuvent pas trouver leur place, puisque là, c'est l'algorithme qui va dire ça se vend beaucoup. Donc, évidemment, toutes les maisons d'édition vont aller vers, j'en sais rien, la Dark Romance, là, par exemple, qui marche très bien. On se dit, là, ça, c'est bien, il y a un réservoir de trucs. Et donc, tout le monde se jette à corps perdu là-dedans. Et il n'y a pas de régulation, puisqu'il n'y a plus... les librairies, elles font un boulot hyper important. Parce que si vous avez un libraire qui, lui, vous embarque en disant « Mais moi, ce livre-là... » Il y a des livres qui sont nés et qui ont grandi par les libraires, en fait. Donc, s'ils sont plus là, alors vous avez un déséquilibre total. C'est vous face à l'algorithme.
Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème de ce que vous... Mais alors, dans ce milieu de l'édition, Tania de Montaigne, votre personnage, votre héroïne, alors il y a un jeu aussi, j'ai remarqué, de majuscules. Il y a un jeu de typo. Ça, c'est très visible dans votre livre. Il y a les majuscules qui apparaissent, de la bonne conscience, avec les mots qui sont censés, quoi, censés récupérer, puis les autres. Vous écrivez, les gens souffrent, meurent, disparaissent. Les gens ont été stérilisés de force, arrachés à leurs parents, à leur terre, livrés à eux-mêmes, dépouillés, assassinés, empoisonnés. Ils sont morts comme des chiens pendant la dernière pandémie et celle d'avant encore, sans que ça modifie en rien ta trajectoire. Mais toi, tu as l'impression d'agir, tu as l'impression d'être du côté du bien, parce que tu mets des majuscules et parce que tu te dis indien, c'est ça. Donc il y a cette façon de manipuler, il y a les mots totems, j'allais dire, qui vous préservent de faire une mauvaise action. Et puis, il y a les mots qu'on dit, qu'on s'auto-censure. Il y a eu un débat récemment avec Kevin Lambert.
Ouais, enfin, un débat
sur une polémique.
Oui,
une polémique.
Il y a eu polémique, là.
Sur cet écrivain qui, je crois, a obtenu le prix Médicis de mémoire, je ne suis pas sûre, et qui a, lui, fait appel à des lecteurs en sensibilité. Alors là, je me suis dit, votre livre, il est... comme un ouragan, là, ça, c'est en plein tourbillon.
Ah bah oui, alors ça c'est vraiment le hasard, parce que se trouve que cette polémique est née 10 jours avant que mon livre sorte, et donc ça a donné lieu à des trucs complètement délirants et absurdes, puisqu'on me demandait mon avis sur quelqu'un...
Ah oui, j'ose même pas vous le demander, du coup.
Je ne connais pas, je n'avais pas lu ce... Parce que c'est tout part d'un post Instagram, c'est-à-dire Kevin Lambert à son livre qui se retrouve dans la première liste du Goncourt. Et donc, il fait un post Instagram pour se réjouir du fait que bah, c'est trop bien. Et pour remercier sa lectrice de sensibilité haïtienne qui lui a permis d'éviter d'écrire des choses qui seraient vraiment l'expression des, du point de vue bah, du blanc, quoi qu'il est. Et grâce à elle, heureusement, il a vraiment échappé à des phrases terribles qu'il aurait pu dire. Donc, ça part de là. Face à ça, Nicolas Mathieu, qui lit ce poste, lui répond en disant, bah, déjà, hein, c'est bizarre de se vanter du fait que quelqu'un t'a relu, parce qu'a priori, bienvenue au club, en fait, on a tous des gens qui
on
nous relisent.
On est tous relus.
Donc, que tu demandes à une amie, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'à ton avis, ça te paraît? Voilà, mais là, il y a quelque chose. Oui, parce que, en fait, Kevin Lambert terminait son poste en disant, et tous les gens qui ne pensent pas que ça soit une chose merveilleuse que d'avoir des lecteurs de sensibilité sont des réactionnaires. Voilà. Donc, alors en plus, bon, voilà, c'était une fin de non-recevoir en termes de discussion. Donc, je crois que c'est encore plus ce qui a énervé Nicolas Mathieu, que je connais pas non plus, hein, je précise, et qui donc a répondu, bah non, puis alors, cette vision de croire que si les gens sont pas d'accord avec vous, c'est des gros réacs, bon, bah, c'est une drôle de vision du débat, quoi. Donc, voilà, et donc, c'est parti dans une sorte de discussion endiablé. Et donc, moi, je me retrouve au milieu du chemin, parce que moi, donc, je précise, j'ai pas Instagram, je connais pas Kevin Lambert, je connais pas Nicolas Mathieu. À l'époque, donc, j'ai pas du tout lu ce poste, et j'ai pas du tout lu le livre de Kevin Lambert non plus. Donc, voilà. Et tout un tas de journalistes m'appellent en me disant, oui, quoi, qu'est-ce qu'on en pense et tout. Et donc, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de discuter avec Nicolas Mathieu,
Ou avec les deux.
Avec les deux, et avec Kevin Lambert, parce que, en fait, ce qui m'intéresse dans ce que dit Kevin Lambert, j'aimerais savoir s'il croit sincèrement, parce que il y a deux choses. Soit en fait il demande à cette auteure, et donc bah il faudrait lui accorder que c'est une auteure, parce qu'il dit que c'est une auteure. Bah donc c'est d'abord une auteure, le fait qu'elle soit haïtienne, voilà. Et donc si c'est vraiment une personne singulière qu'il aime beaucoup, alors bah il faut lui accorder son point de vue de personne singulière et lui reconnaître que bah ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a proposé son regard singulier et que bah donc ça n'engage qu'elle en fait. Voilà. Mais comme il veut absolument et à toute force, visiblement, qu'elle soit surtout noire, en fait, vraiment, c'est ça qui le passionne. Donc, le fait qu'elle soit auteure et singulière, on s'en fout complètement. Le truc super, c'est que, encore une fois, elle lui a permis d'éviter vraiment toutes les erreurs qu'il aurait pu faire, puisqu'il est blanc, et que donc aussi tous les blancs pensent pareil, et tous les blancs font les mêmes erreurs.
Alors on tombe dans encore une autre forme de ségrégation, on vous prend pour votre couleur de peau, et non pas pour...
Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien, parce que la maison d'édition, tout de suite, c'est mis en support et tout ça, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette maison d'édition? Elle raconte bien que cet auteur est blanc. C'est-à-dire, il aurait été noir, pas du tout haïtien, je précise, mais simplement noir, on n'aurait pas du tout fait une publicité de dingue pour dire rassurez-vous les noirs, il y a un noir qui a lu, donc vous pouvez lire ce livre, il est garanti 100% avec des vrais morceaux de noir à l'intérieur, quoi.
Mais moi je trouve ça, enfin, quand on écrit, ça veut dire qu'on est capable de se mettre, si on est blanc, dans la peau d'un noir ou de tout, on est, il y a l'universalité de la personne qui écrit, et la force de l'écriture fait que vous allez ressentir.
Bah c'est surtout qu'en fait il faut aussi, je vous parlais du risque avant, et en fait, faire une œuvre d'art, c'est faire preuve de...
D'audace, enfin.
Bah, vous risquez un truc, c'est-à-dire vous faites quelque chose, peut-être des gens n'aimeront pas, peut-être ils diront, bah moi je suis pas du tout d'accord, et c'est ce pourquoi vous avez fait ce travail. Vous avez proposé un regard singulier sur quelque chose. Vous ne pouvez pas vouloir vous poser raconteur de la vérité. Elle n'existe pas. Vous proposez votre réflexion sur quelque chose, et c'est ça en fait qu'il faut supporter, c'est que vous ne pouvez pas vous-même être une personne totale.
Exactement.
Hein, donc cette volonté comme ça d'omniscience,
de globalisation.
Moi je crois qu'il va falloir se calmer, puis supporter en fait la banalité de ce qu'on est, c'est-à-dire on est une personne et puis on fait quelque chose qui nous ressemble, et puis voilà, des gens s'y reconnaîtront, d'autres pas. Et donc mais ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire que en fait moi je ne prétends pas parler au nom de tous les Noirs. Je les connais pas, en fait. Hein, donc, je suis quand même obligée de vous le dire. Donc, je prétends parler au nom de moi-même, et puis c'est déjà pas mal. Ça marche pour tout le monde. Donc, en fait, je veux dire, si un auteur blanc a envie de raconter la vie d'une personne noire, en fait, il va raconter la vie d'une personne, et puis après, chacun en pensera bien ce qu'il veut. Exactement. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est une vision qui dirait qu'en fait, il y aurait quelque chose qui serait ce qu'on doit faire et quelque chose qui ne serait pas. Et que donc, il y a des gens qui arrivent à atteindre cet endroit, qui est l'endroit c'est ça, et puis d'autres qui n'y arrivent pas. Et pour arriver au c'est ça, il va me falloir tout un tas d'experts qui vont valider ce que je suis en train de raconter. Mais en fait, il faut supporter aussi, je crois, l'erreur.
Ah oui.
On n'en sait rien, voilà. Donc vous savez pas, et l'art c'est pas le lieu du savoir. Non. C'est le lieu de l'imagination justement. Donc j'en sais rien, mais en fait j'imagine des trucs.
Et du mystère, on ne dit pas assez, le mystère c'est beau. Alors justement, y a beaucoup d'humour hein, dans votre livre, je souligne, parce que les livres avec de l'humour, ils ont du mal à passer en France. Je ne sais pas pourquoi l'humour, en France, ça passe mal. Peut-être pas dans les pays anglo-saxons, mais alors, les éditeurs, justement, là, vous me dites à un moment donné, pour l'humour, c'est terrible, c'est l'ennemi numéro un, justement, du feel-good, quoi.
Ah ouais.
Ou alors, il faut faire un humour lourdingue pour que ça passe, mais l'humour... Et il y a plein d'humour d'ailleurs. Alors pour revenir, alors vous dites par exemple le mot noir, mais noir, elle le sentait, était un mot problématique. Il pouvait très clairement mettre à l'aise des gens noirs ou pas. Il y avait des noirs que le mot noir mettait mal à l'aise. Il y avait des gens autres que noir mettait mal à l'aise parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le dire sans mettre mal à l'aise les noirs que le mot noir aurait pu mettre mal à l'aise. Enfin, mal à l'aise, le terme était tout autre. Bref, il y a un jeu sur les mots. L'enchaînement des mots, Tania de Montaigne. Et moi, je trouve ça épatant, puisque les éditeurs, là, ils ont vraiment du mal à suivre. Qu'est-ce que vous pensez de le phénomène de l'intelligence artificielle qui... on l'a parlé aussi, juste...
Alors, on n'est qu'au début de tout ce qu'on va dire.
J'aimerais bien connaître votre regard sur ça.
En fait, mon regard, c'est déjà que l'intelligence artificielle, c'est un moyen. C'est pas une fin, en fait. Hein. Donc là, j'ai vu... plusieurs œuvres qui avaient donc où c'est écrit que c'est fait avec intelligence artificielle.
Pareil.
Voilà, donc c'est écrit en
labellisé.
Gros. Voilà, mais la vérité c'est que l'intelligence artificielle c'est comme si vous aviez un stagiaire qui sait pas ce que vous cherchez. Donc en l'occurrence, vous avez quelqu'un qui va aller pour vous poser des gros filets dérivants et ramener des choses, mais en fait, c'est vous qui allez devoir faire le boulot de savoir ce que vous voulez en faire. Donc si vous savez pas, ça donne des trucs en fait qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est que on vous décrit en gros que c'est intelligence artificielle. Bon, bah très bien, mais c'est pour faire quoi? Et donc en l'occurrence, quand vous faites le test, je sais pas si vous l'avez déjà fait,
non.
C'est-à-dire si vous allez sur ChatGPT, c'est intéressant de voir si vous lui demandez de commencer du côté de l'art. Si vous lui demandez un poème, par exemple. Donc, vous dites, vous devez être très précis, puisque vous allez lui demander d'aller chercher des trucs. Donc, vous devez lui dire, moi, je voudrais une poésie à la manière de, Boris Vian, sur un couple qui se rencontre dans un autobus, à 21h30. Voilà, bon. Donc, là, la machine, elle part, elle revient, donc elle a étudié tout. Boris Vian, elle se dit, ok, c'est tout ça, le bus, c'est ça, 21h30, c'est ça. Hop, elle vous fait un truc. Et en fait, ce qui apparaît très clairement, c'est qu'elle n'est pas humaine. C'est-à-dire qu'en fait, justement, ce regard dont je parlais, elle ne l'a pas. Puisque par définition, elle, son travail, c'est de ramener de l'info.
Ouais.
C'est pas d'éprouver quoi que ce soit.
Non.
Et donc, elle est là, elle vous propose des trucs. Et si vous essayez de faire le travail que vous feriez avec votre stagiaire s'il était humain, vous lui diriez, ok, alors maintenant regarde, si on va plutôt là, si on se met plutôt à cet endroit, tu vois, tu commences à voir ce qu'on cherche. Mais la machine ne peut pas faire ça. Donc vous essayez de la guider, vous allez la guider, puisqu'on est sur la question de l'écriture, sur la question du conflit en fait, puisque votre travail à vous, c'est de mettre en difficulté votre personnage en fait. Sauf que la machine, comme c'est une machine anglo-saxonne, elle a été programmée pour ne pas devenir nazie. Bon, alors ça, c'est pas parce qu'elle est anglo-saxonne, mais en l'occurrence, tous les tests qu'on a faits, c'est que si vous mettez une intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, en 2 heures, elle est devenue nazie. Donc, pour éviter cette problématique, on lui a mis plein de garde-fous, ce qui fait qu'elle peut pas du tout avoir accès au conflit, elle peut pas avoir accès aux gros mots et tout ça, et donc elle vous dit à
chaque
fois...
Donc elle est feel good, elle
non,
aussi
je... bah, Totalement. Elle a été programmée pour être feel good.
Ah ouais.
Donc, elle peut pas du tout aller aux endroits qui vont faire que ça va devenir une œuvre d'art. Donc, c'était assez saisissant parce que j'avais une sorte de dialogue avec cette machine qui refusait le conflit. Et à la fin, je lui dis bon bah donc tu sers à rien. Elle m'a dit ça n'est pas gentil de dire ça. Donc,
Alors bah, c'est les articles. Il y a plein d'articles aussi dans cette maison d'édition Feel Good. Par exemple, vérifier qu'il y a un lien biologique entre l'auteur et le sujet traité, la légitimité est la base du Feel Good. Article 5, extrait de la charte Feel Good. Ou alors éviter les termes comportant une charge affective ou émotionnelle. Préférer les mots neutres. Article 6. Extrait de la charte Feel Good. Et puis, il y a la notion de mot inclusif. Ça m'a intéressé. Parce qu'en fait, ce mot inclusif, force de vouloir trop inclure, eh ben, on exclut complètement. Enfin, l'objectif de départ, c'est pareil. Ça dérape. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire, ouais. Vous voulez trop bien faire. Et puis, ça fait l'inverse.
Après, en plus, moi, sur inclusif, j'ai un autre problème. C'est que ça donne l'illusion à la personne qui est dans sa dynamique inclusive, oui. Qu'en fait, c'est par elle que les choses adviennent. Donc, ça donne l'illusion que, en fait, la société, ça dépendrait du bon vouloir de gens vachement sympas qui, en fait, vous accepteraient dans leur carré VIP.
Oui.
Eux, ils auraient une super vie, vous avez une vie pourrie. Mais comme ils sont sympas, ils disent vas-y, viens et tout. Donc, on oublie complètement une notion de base et fondamentale. C'est qu'en fait, c'est pas du tout par les autres que... ça devrait advenir, parce qu'en fait l'idée c'est que il y a un truc qui s'appelle les droits humains et que je ne dois pas attendre que quelqu'un soit suffisamment sympa pour respecter mes droits pour que ces droits existent. En fait, ces droits ils préexistent. Non, je ne souhaite pas que des gens se congratulent et se narcissisent en se trouvant vachement sympa parce que, tu vois, j'ai ouvert la porte à une personne qui a un fauteuil roulant, quoi. Notre sujet, c'est qu'il y a des gens qui ont des fauteuils roulants et qui peuvent pas circuler comme ils veulent, ils peuvent pas choisir leur vie. C'est pas une histoire d'inclusion, c'est une histoire de respecter ou pas, donc d'être dans la légalité ou dans l'illégalité. Donc moi, ce terme, il ne me plaît pas du tout.
Quand elle reçut la réponse de l'auteur, elle comprit qu'il allait peut-être falloir un peu de temps, plus de temps que prévu, pour opérer la révolution bien-être et inclusion à laquelle elle aspirait, celle qui rendrait tout à chacun calme et heureux. Donc là, c'est, on se donne bonne conscience finalement, en accordant un petit bout, une petite syllabe en plus à l'autre, alors qu'on lui refuse sa place dans la vie réelle.
Bah oui, tout à fait. Et que ça va. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Mais du moment... Puis alors, on voit bien comment il faut régénérer ces mots. Par exemple, diversité est un mot aussi... vraiment, on en a toutes les sauces.
À
et donc,
sauces.
À tel point... En plus, on voit bien les glissements. C'est-à-dire, au départ, diversité, on se dit, bah oui, c'est bien qu'il y ait de la diversité, donc de tout. Et donc, chacun de nous est... représentant de cette diversité, puisque chacun de nous est divers. Mais soudain, j'ai bien vu très rapidement comment moi-même, je suis devenue une personne issue de la diversité, donc qui est donc un pays, comme chacun le sait, la diversité. À moi seule, maintenant, je suis la diversité. Donc, si j'arrive dans un endroit où il n'y a que des blancs et que je suis là, c'est bon. En termes de diversité, on est au top, puisque je suis là.
Donc c'est toujours... Le malentendu aussi, à la base de toute littérature, n'est pas non plus souhaité. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Le malentendu n'est pas feel good. Il génère de l'inconfort. Et voilà. Et puis pour l'humour aussi, alors ça, ils avaient voté à l'unanimité la diminution de la proportion de livres contenant de l'humour. Ça, je l'ai vérifié. Il fut aussi décidé que seuls les auteurs présentant un pourcentage ADN de plus de 67,800% pourraient faire de l'humour en lien avec leur origine. L'humour en lien avec une origine autre que la sienne était bien évidemment impensable.
Ah ouais, ça c'est
quand même... On va faire une pause musicale, Tania de Montaigne, parce que là, ça nous dépasse un peu.
Thank you. ces mugiques fleuris, tes oiseaux qu'avec tes oiseaux, mon cabot dans l'allée des soupirs, l'amour qu'a voltigé, colibri, fini donc moi. Flûte, violon, guitare, en bas, balcon moins, cabas moyen, sérénade, la liane d'argent, du bel muguet moins, marée que l'amour est moins. La 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 la.
C'était Jenny Alpha qui est morte il n'y a pas très très longtemps, très très âgée.
Voilà, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Tania de Montaigne qui vous présente son roman Sensibilité, c'est paru aux éditions Grasset. Alors, on parlait des mots inclusifs qui sont savoureux sous votre plume, Tania de Montaigne. Voilà ce que vous écrivez. Eux, des aliments inclusifs et bienveillants, bien sûr. Comme quoi, eux, une salade sans pesticides ni glyphosate, évidemment. Donc voilà, c'est pour situer la réglementation imposée par cette maison d'édition Feel Good. Ça va jusqu'au choix des aliments des personnages, jusqu'à leur image. La féminité aussi, vous en parlez, hein, de l'image de la femme. Qui ne doit pas vieillir. Enfin, y a une... vous montrez ça, la différence entre les hommes et les femmes pour l'apparence, bien sûr.
Bah, oui, en fait, sur la. C'est... Vraiment, j'ai essayé de faire le récit de ce qui nous structure. Hein. Mm. Et donc, comment est-ce qu'à la fois il y a ce lissage et cette volonté d'être dans quelque chose qui ne bougerait pas. Mais donc, ça vaut pour plein d'autres choses, et notamment cette question de l'âge.
De l'âge, voilà. Hein. La majorité d'entre eux, dites-vous, gardaient leur couleur naturelle agrémentée de cheveux blancs, si cheveux blancs il y avait. Les femmes sans, les hommes avec. C'était ainsi. Il n'y avait aucune demande précise de la direction à ce sujet. Rien dans la charte, mais c'était ainsi. Les femmes, bien, devaient arrêter le temps. Cette notion de... Le temps doit être arrêté pour une femme. Donc vous montrez bien que sinon, ce prisme apparemment inoffensif au départ du Feel Good va très loin. Et modifie, a pour vision de modifier nos consciences, puisque la lecture, la pensée, si dès le départ c'est tronqué, votre pensée après elle est... Est-ce que c'est une dystopie votre roman, Tania de Montaigne ? Est-ce que vous le situeriez dans ces dystopies un peu visionnaires, une proche dystopie on pourrait dire ?
Ouais, je sais pas trop, parce que pour moi, y a plein de choses qui sont des choses avec lesquelles on a toujours... avec lesquelles notre inconscient travaille depuis très très longtemps. Cette question que les femmes ne vieillissent pas, ça date pas de la semaine dernière où on a inventé des crèmes au rétinol. Hein.
Non.
Donc y a une constante sur cette idée-là. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ça mute, comment ça... Il y a d'autres mots qui viennent raconter ça, ce récit. Mais en fait, cette répartition, ce qui m'intéresse, c'est que il y a des choses qui sont extrêmement archaïques, qui ne bougent pas, et que on retrouve à toutes les époques. Seulement là, dans la nôtre, on a, comme on est dans l'obligation d'être en toute bienveillance, inclusion et diversité.
Hein, ouais.
Comment est-ce qu'on lui donne un aspect qui irait dans ces codes-là. Alors même que on voit bien que tout ça, c'est que des questions d'exclusion, en fait. Il y a pas.
Et puis, je parlais du temps. Votre livre est aussi une réflexion sur l'effacement de soi, de son identité. Effacer, les êtres humains font ça depuis la nuit des temps, écrivez-vous. C'est le premier réflexe de l'homme, avec respirer peut-être. Respirer et oublier. Nous avons été programmés pour tout effacer et pour tout recommencer en permanence. Biberonnés au nouveau départ, nous fantasmons un monde sans cicatrices. Donc, cette sorte d'effacement de ce qui heurte, de ce qui fait votre singularité. Votre histoire.
Oui, et puis cette méthode-là qui consiste à dire de tout temps, en fait. Hein, voilà, par exemple, en France, on voit bien qu'après le 7 octobre, il y a eu une espèce d'éruption de choses qui, en fait, racontent fortement tout un moment historique qui est de l'impensé pur. C'est-à-dire que quand vous sortez de la Shoah et que vous êtes dans un pays qui a donné des juifs qu'on ne lui demandait pas. Et puis qu'on ne fait pas du tout ce travail de se dire, tiens, puisque en fait De Gaulle revient et qu'il dit il faut que ça tourne ce pays, donc on ne va pas du tout commencer à se demander à tous les étages de l'administration ce qui s'est passé et qui a fait quoi. Donc on va faire un récit qui sera de dire qu'en fait on était tous résistants et qu'en fait la France elle était à Londres, donc cette continuité humaniste elle a perduré. Et en fait, ce qui se passait sur le territoire, bon, c'est pas la France. Hein. Bon, si vous dites que tout le monde a été résistant, on voit bien comment est-ce que ce non-récit, il continue à circuler en nous comme une nappe phréatique et qu'il y a plein de moments comme ça où ça ressort. Pareil pour l'esclavage. On dit, on est quand même le pays qui a aboli deux fois l'esclavage, mais c'est pas grave, on s'est complètement régénéré sur cette question qui n'a pas du tout été ni pensée, ni regardée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a quand même des territoires qui continuent à être structurés par ça. Mais en fait, c'est pas grave. Et donc, on fait comme si on pouvait faire l'économie de connaître notre histoire. Mais c'est pas vrai, parce que l'histoire, elle vous demandera toujours à manger. Et tant que vous n'avez pas fait le travail de regarder de quoi il est question, ça reviendra. Et ça revient par des trucs où tout le monde dit « Ah, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ?»
Voilà, vous écrivez pour l'esclavage. Comment l'esclavage est-il redevenu cool ? Pourquoi tous les nouveaux milliardaires de cette planète ont-ils, sans se connaître, répondu à la question « Comment vais-je devenir milliardaire ?» En n'inventant rien. Ils ne nous ont mis au travail avec nos propres outils, nos données, nos voitures, nos appartements, nos désirs. Ils l'ont fait avec notre accord. C'est génial, non ? Voilà, donc c'est aussi la démission de la conscience. C'est une sorte d'asservissement volontaire. Hein. Vous dénoncez par l'autocensure. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains s'autocensurent.
Bien sûr, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'œuvres qui aussi ne naîtront pas.
Voilà.
Parce que je vois bien, moi, qu'il y a quand je vais faire des rencontres en librairie, la question, beaucoup, c'est de gens qui aimeraient écrire des choses, mais qui me demandent s'ils peuvent le faire. Hein, donc, parce qu'ils croient que vraiment le sujet de l'art, c'est la légitimité. Si on est à cet endroit-là, en fait, on est parfaitement cuit. Et donc, je vois bien que plein de gens sont cuits. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on remet tous ces gens à se jeter dans le vide et à regarder ce qui se passe, quoi.
Et à prendre des risques, le risque de la pensée. Quel est le rôle d'un écrivain pour vous, Tania de Montaigne ? Est-ce que c'est d'incarner, de donner justement l'incarnation des mots, de lutter contre l'aseptisation de la langue, de trouver sa propre langue ? C'est important pour vous de trouver votre propre langue ?
Oui, moi je crois que le rôle, c'est vraiment celui-là, parce que pour le reste, on ne peut pas présager de ce que ça générera chez l'autre, en fait. Si on commence à écrire en étant obsédé par le fait qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose chez l'autre, ça marche pas non plus. En fait, c'était vraiment une question d'être en soi et de se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de regarder ? Comment je le regarderais si je devais regarder ça ? Et puis, d'essayer d'être au plus singulier de soi-même, de dire, c'est mon truc, quoi. Et puis, venez y voir si vous voulez, ne venez pas si vous voulez pas, soyez d'accord, pas d'accord. C'est une proposition, en fait, c'est ça. Il faut continuer à proposer des choses Parce que c'est dans cette dans ce fourmillement que d'autres œuvres vont naître aussi. Voilà, moi je dois beaucoup à tous les artistes, quels que soient les domaines, qui osent en fait. Quand je vois quelqu'un qui fait un truc, qui regarde quelque chose que je croyais connaître depuis toujours, et puis qui me le montre comme moi j'aurais jamais pensé le regarder. Bah, c'est ma chance en fait, parce que là on fait vraiment une expérience de réalité augmentée. Soudain je me charge d'un nouveau regard et je suis remplie de ça, quoi. Et c'est exaltant de dire ah bon, bah alors toi tu vois ça comme ça, mais c'est complètement fou cette histoire. C'est ça aussi qui rend qui donne envie de se dire attends, ah ouais, ok, il a osé ça, elle a osé ça, ok, bah moi ça me donne envie de continuer, de me dire on y va, on fonce, quoi, on va regarder ailleurs si on y est, quoi.
L'expérience immersive, elle est importante pour vous. Vous faites une exposition actuellement, il y a une exposition hein, dont on peut parler, mais vous justement se donner un autre regard, explorer la réalité de la création sous tous ses angles, ça vous intéresse, Tania de Montaigne?
Oui, et puis là alors récemment j'étais dans une remise de prix, et il y a quelqu'un qui a fait un discours et qui a cité Bakounine, et j'ai adoré cette phrase qui était de dire en fait ma liberté s'augmente de celle des autres, et là j'ai dit mais c'est extra ça, donc voilà, donc ça c'est ma phrase, ça y est, de 2024,
voilà.
Et pour moi c'est ça en fait, c'est vraiment cette idée de quand je parlais du risque de l'autre, bah ouais, en fait il faut risquer l'autre, parce que c'est là que pour moi se joue la possibilité d'être plus grande que ce que je crois que je suis. Donc je peux pas faire l'économie de l'autre, et on voit bien que si vous mettez une pandémie qui vient raconter que l'autre est potentiellement mortel, et ben c'est une catastrophe, quoi. Donc il faut aussi repartir dans la création qui permet du collectif. Donc en l'occurrence l'expo qu'on a faite, l'expérience immersive, elle est autour de ça. Vous faites l'expérience, vous êtes 10. Et c'est de la réalité augmentée, donc vous ne perdez pas de vue le réel. Hein, vous n'êtes pas dans un truc virtuel tout seul.
Dans là, une autre réalité.
Là, vous êtes dans la réalité et on y ajoute des choses.
Ouais.
Donc, en l'occurrence, on y ajoute des hologrammes et vous partez dans l'Alabama des années 50, mais vous partez avec les 9 autres personnes. Et ce qui est génial quand on observe comment les groupes fonctionnent, c'est que chaque groupe a sa dynamique. Donc, il va y avoir des groupes qui sont hyper mobiles, parce que c'est vous qui choisissez l'angle de vue, en fait. Hein. voilà, il y a des groupes très mobiles, d'autres qui le sont moins, il y a des gens qui se parlent, d'autres pas, etc. Et donc pour moi c'est vraiment là tout ce qu'on met en œuvre, y compris au théâtre et tout, il y a toujours cette idée de comment on peut refabriquer du collectif, comment est-ce qu'on peut supporter l'altérité dans tout ce qu'elle a de pas moi. Ouais, alors vraiment, c'est voilà. Comment est-ce qu'on peut écouter une parole qui est pas la nôtre, réfléchir à partir de ça, se parler, discuter, voilà. Et donc là, vraiment, notre sujet, il est avec Stéphane Fuenquinos, qui est metteur en scène des deux pièces, et puis aussi qui est co-réalisateur de l'expo. On est dans cette réflexion toujours de dire comment on refabrique du collectif.
Et j'ai l'impression que la solitude a quand même un rôle à jouer pour vous. J'ai l'impression que l'insularité, j'ai l'impression que de temps à autre, Tania de Montaigne, vous revenez dans votre
singularité,
dans votre grotte et dans votre solitude. Mais quel est le livre qui a changé votre... Est-ce qu'il y a un livre dont vous vous souvenez qui a vraiment changé votre vie ? Qui vous a vraiment construite ? Parce que là, en fait, votre livre Sensibilité pose cette question du livre aussi. Enfin, moi, elle est sous-entendue, cette question du livre, comme une rencontre qui va brusquement changer votre vie. Et là, il se trouve que ces éditeurs, là, ils veulent tout sauf ça. Bon, ils veulent aseptiser tout, quoi. Donc, du coup, il ne se passera peut-être pas grand-chose, parce que c'est tout
Non, liste. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est que chacun reste comme on a dit qu'il était. Donc, voilà. C'est pour ça, en fait. Hein, la question de ne pas vouloir blesser, heurter, offenser... c'est aussi l'idée que, en fait, vous êtes... par nature ce que vous êtes et que ça ne bougera pas et que donc on est là pour essayer de maintenir ça.
Donc il voilà. y a eu un livre dans votre...
Bah, moi, en fait, c'est surtout qu'il y a plein de livres, ouais. Parce que c'est des moments, en fait, ouais, les livres. Ouais. Donc, il y a des gens qui, d'un coup, rentrent dans
Des écrivains, je ne sais pas.
Bah, oui, mais pour moi, en fait, un écrivain, c'est une personne qui rentre chez moi, en fait. Hein. Ouais. Duras dit, il faut que l'inconnu entre et gêne. Et bah voilà, il y a plein de gens qui sont entrés
et qui
d'un coup, me déplacent. Il y a une femme que j'adore. Ah ouais, alors ça, si vous ne la connaissez pas, c'est aussi une grande chance, qui s'appelle Janet Winterson, et qui a écrit deux livres. Alors, je vais vous recommander l'ordre dans lequel il faut les lire. Mais donc, elle a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» qui est la phrase que lui a dit sa mère adoptive quand elle lui a annoncé qu'elle était lesbienne, et qu'en plus, elle était trop contente parce qu'elle avait rencontré une femme qu'elle aimait. Et donc, sa mère lui a dit « Oui, bon, alors, pourquoi être heureuse quand on peut être normal ?» Et donc, elle raconte, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est un livre qui est magnifique parce que c'est à la fois une autobiographie, mais c'est aussi comment est-ce qu'elle essaye de comprendre ce que c'est, en fait, que de fabriquer sa place.
Ouais.
Ça veut dire
trouver
quoi?
Sa place.
Ouais, la trouver. Puis alors, comme c'est une petite fille adoptée, il faut vraiment. Il y a aussi une part d'invention. Donc, elle raconte comment la littérature, elle vient mettre quelque chose là, un étayage pour elle. Et puis, elle raconte cette Angleterre dans laquelle elle est née. Vraiment, c'est un livre génial. Donc, elle, par exemple. Elle est entrée et elle est restée, mais elle déplace sans arrêt, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que je peux la relire et d'un coup je me dis, bien sûr.
L'expérience des ateliers d'écriture, je sais que vous en avez fait.
Oui, j'en fais toujours.
C'est important pour vous. Hein.
Oui, en fait ce qui est important c'est d'aller aussi vers des publics. Donc là, j'ai fait un atelier à la maison d'arrêt de Saint-Malo, un atelier au centre pénitentiaire, des ateliers avec des scolaires. C'est intéressant en fait parce que ça permet aussi de réfléchir, pareil, de se réfléchir. Alors dans des cadres, si on est enfermé entre quatre murs, c'est comment est-ce que on se ressaisit de soi-même et on se redéfinit à l'extérieur. Quelque part, on se crée une chambre à soi, voilà, comment on va faire ça.
Voilà, c'est un beau mot de la fin, là. Trouver sa chambre à soi. Alors, on peut vous retrouver, Tania de Montaigne, donc demain au Havre, c'est ça?
Oui, festival Le Goût des Autres, ça
voilà.
S'appelle.
Attendez, j'ai noté plein de choses. À Metz, alors ça c'est en avril, alors en janvier, j'arrive plus à m'y retrouver.
Non, mais alors demain je suis au Havre, donc ça c'est avec sensibilité, rencontre, signature, lecture, tout ça.
Voilà.
À partir de, après-demain, je suis au FIPADOC à Biarritz.
Ah oui, Biarritz,
parce qu'il y a l'expo, donc si vous êtes dans le coin, il faut vraiment que vous voyez ça. Alors je le dis parce que globalement c'est pareil, j'ai rien foutu. À part soutenir des gens extrêmement talentueux qui ont fait cette œuvre, voilà. Donc elle se pose au FIPADOC jusqu'à la fin, donc au 27 janvier. Donc ça c'est l'expo, et ensuite je serai avec la pièce L'Assignation, donc à Poitiers le 25 janvier. Et de nouveau à Romans-sur-Isère.
Le 16 février.
Voilà, ça c'est
et
ça.
Et puis après en avril, c'est aussi le festival mot à mot du 12 au 14 avril à Mulhouse.
Exact.
Et le 20 et 21 avril, on pourra vous retrouver à Metz pour le festival du Salon du Livre de Metz.
Bravo, on y est arrivé là.
On y est arrivé. Merci à vous, Tania de Montaigne. Merci à nos auditeurs. Et puis, vous pouvez surtout lire, et je vous recommande Sensibilité, c'est un roman qui est paru aux éditions Grasset. Et merci à Flo Descailloux aussi de vous avoir écouté. Mais vous pouvez surtout podcaster aussi l'émission sur le site de Radio Libertaire. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Au revoir. Merci.
Alors, pour terminer, je ne sais pas si l'invité connaît Kik, le disque Le Pouvoir des Mots. J'ai beaucoup hésité entre Le Blues du Bonheur et le titre éponyme Le Pouvoir des Mots. Je crois que je vais vous passer Le Pouvoir des Mots parce qu'on n'a pas le temps d'hésiter. De 2016.
Ils appellent ça l'amour, ils appellent ça la paix, ils appellent ça le progrès, Ils appellent ça liberté, ils appellent ça démocratie. Et voilà, tout est dit. Ils appellent ça la loi. Entendez-vous ces voix, voix menant le troupeau, agitant les grelots. Entrez, entrez dans la ronde, voici le meilleur des mondes. En avant pour la folie, l'appétit du profit, l'artifice stupide, des visages sans rides.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. La main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui trace, la main qui coud, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient la bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat. La main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier. La main qui course le clavier. La main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne. La main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir. Les mains sont prêtes pour s'attendre, les mains sont prêtes pour s'unir.
Bonjour aux auditeurs de, et aux auditrices de Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, pour cette nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe, cette littérature », émission réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie, je le rappelle, notamment « Fragments », revue de littérature prolétarienne, et qui a mis en place un travail d'édition avec la publication de deux livres, hein, le livre de François Lebert, Ligne de front, et plus récemment, au mois d'octobre 2023, le livre de Michel Ragon, Nous sommes 17 sous une lune très petite. Donc, aujourd'hui, pour cette émission, nous sommes quatre dans le studio. Nous avons à la technique Frédéric, du groupe La Commune de Paris de la Fédération Anarchiste. Et autour de la table, nous avons Michel, du club, c'est un cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale. Moi-même, Raphaël, et au sommaire de ce jeudi 18 janvier 2024, nous avons un thème central avec un invité, Nedjib Sidi Moussa, qui vient de publier Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue aux éditions de l'Échappée. Ensuite, Michel nous parlera du livre de Michel Ragon, Les ateliers de Soulages. Enfin, nous présentons...